Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actu locale et associative. Nous sommes le lundi 4 novembre et aujourd'hui on va parler d'un sujet de société qui concerne près de 12 millions de Français et de Françaises. Je veux parler du tabac. Et oui, je vais en venir à ce mois événement qui est le mois sans tabac et pour l'occasion je suis ravie de recevoir Élise Houdin, infirmière tabacologue à l'association Le Mile. Avant de commencer, qu'est-ce que Le Mile ?
Alors nous sommes un centre d'addictologie sur Amiens, centre de soins, d'accompagnement sur toutes les addictions et pôle prévention avec également des sites d'hébergement pour des personnes qui sont en cure ou post-cure sur leurs soins, sur des addictions à différents produits.
Alors le tabac, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la première cause évitable de mortalité en France. De nombreuses associations et même des institutions essaient de sensibiliser et d'accompagner les personnes dans leur lutte pour arrêter de fumer. Vous, au Mile, comment vous vous y prenez ?
Alors, par rapport au tabac, c'est un élément qu'on a dû développer ces dernières années avec l'aide de l'Agence régionale de santé, puisque effectivement, c'était pas perçu comme une addiction très importante, vu que c'est un produit légal. Et puis, malheureusement, on a pu constater qu'au niveau santé, ça fait vraiment de gros dégâts qu'il faut le prendre en charge. Donc, on a dû développer la partie accompagnement au sevrage et puis poursuivre des actions de prévention, notamment vis-à-vis des jeunes, mais aussi un petit peu tout public. Et on a donc ce gros événement Mois sans tabac qui est plusieurs mois de préparation chez nous, où on va intervenir et sensibiliser plus particulièrement parce que beaucoup de fumeurs souhaiteraient arrêter de fumer. C'est près de 59,3% de fumeurs qui aimeraient arrêter de fumer. Mais franchir le cap, c'est toujours compliqué. Ça peut être un peu angoissant, on ne sait pas trop comment s'y prendre et on a tendance à remettre à plus tard. L'intérêt du mois sans tabac est de générer un petit déclic en se disant « bon, allez, là, je me lance, je fais le défi ».
On en parlait avant de commencer l'émission. Je me posais la question, le tabac, c'est devenu vraiment un sujet de tabou ? Maintenant.
Alors il y a effectivement une dénormalisation de ce produit par rapport à ce que ça a pu être autrefois. Les fumeurs sont un peu plus ostracisés. Il y a des plages sans tabac, des parcs sans tabac, etc. parce que on a pris conscience du rôle du tabagisme passif. Et donc, c'est moins bien vu, effectivement, de fumer qu'autrefois. Alors, encore un petit peu chez les jeunes qui démarrent, bien sûr, il y a un petit côté cool, on fait ça ensemble, le côté transgressif et tout ça. Mais ça disparaît quand même dans le temps. Et maintenant, c'est un peu plus honteux quelque part.
Alors pourquoi est-ce que le mois sans tabac, il est vraiment très important pour sensibiliser la population ?
Parce qu'on est encore à une proportion très forte de fumeurs dans notre pays, plus de 30% de fumeurs. C'est énorme par rapport à d'autres pays, notamment européens, qui sont dans une baisse significative. Et donc on a cet impact sur la santé, on disait 75 000 morts par an quand même du tabac, et un impact financier énorme aussi sur la société, la question de la pollution, en tous les cas c'est une grosse problématique de santé, donc on ne peut pas le mettre de côté, et il s'est avéré que des événements comme ça peuvent permettre de donner une petite impulsion aux fumeurs pour se lancer dans un sevrage.
Dans le cadre de ce mois événement, donc vous l'avez dit, c'est plusieurs mois de préparation à l'avance. Qu'est-ce que vous allez mettre en place au Mile ?
Alors, on essaie de travailler différents axes et différents publics. La priorité est toujours les personnes en précarité. C'est un public souvent confronté aux produits tabac. Et donc, on a concrètement des actions type stand lors de la semaine du goût. On va essayer d'expliquer qu'on peut retrouver du goût et de l'odorat en arrêtant de fumer, donc avec des dégustations à l'aveugle, etc., des tests. On a des ateliers de relaxation, de yoga, etc., pour travailler l'axe anti-stress, puisqu'il est C'est une fausse croyance de croire que le tabac, ça détend vraiment, que c'est relaxant. Au contraire, ça génère même plus de stress qu'il n'y paraît. On va avoir des ateliers, des stands en entreprise, en foyer d'hébergement, dans des établissements scolaires, etc. On va concrètement essayer d'accrocher sur des rappels sur ce qu'est le tabagisme. Et puis surtout, l'axe majoritaire, c'est parler des idées reçues qu'on peut avoir par rapport au tabagisme. Beaucoup de personnes pensent qu'en fumant déroulé, ben c'est moins dangereux, en tout cas pas plus, que ben fumer, arrêter de fumer, ça fait grossir. J'ai parlé du stress aussi, etc. Donc en tout cas, l'occasion de revenir sur des idées reçues, parce que ça fait que la personne, même si elle ne se sent pas prête à arrêter de fumer, elle va réfléchir à tout ça et peut-être le déclic viendra un peu plus tard dans l'année.
Est-ce que les personnes qui viennent vous voir, elles n'ont pas peur aussi du jugement ?
C'est plus difficile en tous les cas de tenir la démarche de sevrage dans le temps. Il y a une honte quelquefois à ne pas réussir à arrêter du premier coup, mais pas tellement d'être dans la démarche d'arrêter de fumer. Ça, c'est quand même beaucoup mieux vu maintenant. Il y a tout de même une baisse du tabagisme par rapport aux précédentes décennies. Et donc, non, il n'y a pas... Il n'y a pas forcément de honte vis-à-vis du fait d'arrêter, mais plus des difficultés que ça peut poser.
Le tabac, c'est aussi un problème qui est écologique, pas seulement de santé publique. Et moi, je vous propose qu'on écoute la chronique des gars du labo sur le sujet et on revient juste après pour en discuter avec vous, Élise Houdin.
Oui.
Les gars du labo présentent... Le tabac. Mais quelles sont les conséquences environnementales du tabac ? Dans le débat public, nous mettons en avant à juste titre les ravages sur la santé de la consommation de tabac. Mais il est bien souvent plus flou d'estimer l'empreinte écologique de cette industrie. Commençons par la culture du tabac. Ce qu'on appelle tabac est le résultat de feuilles séchées puis émiettées d'une plante, la Nicotiana tabacum, de la même famille que la tomate. La Chine, l'Inde et le Brésil sont les trois plus gros producteurs de tabac en 2019, pour une production mondiale estimée à 6,5 milliards de kilos de tabac. Cette production à elle seule mobilise près de 200 000 hectares, autant de terres qui pourraient produire 2 600 000 tonnes de maïs par exemple. Cette emprise au sol est bien souvent précédée d'une déforestation massive, à tel point que l'on estime aujourd'hui que 5% de la déforestation mondiale est liée rien qu'à la culture du tabac. Cette déforestation provient aussi du séchage des feuilles de tabac, qui à l'échelle industrielle ne sèche pas à l'air libre, mais plus souvent par la combustion de bois. Il est nécessaire de brûler 20 kg de bois pour obtenir 1 kg de tabac sec. Cela fait qu'on estime aujourd'hui qu'un arbre est coupé pour 300 cigarettes produites. Je peux t'inviter, si tu es fumeur, de tenter de convertir ta consommation annuelle de cigarettes en arbre coupé. J'attends ta réponse sur notre Instagram, les gars du labo. Rien de culpabilisant là-dedans, ce n'est qu'une façon de se représenter les choses plus concrètement. Il est aussi évident que cette culture consomme de l'eau. On estime sa consommation à 22 milliards de tonnes d'eau par an, sur la consommation tout de même de 33 millions de Français à l'année. Et bien évidemment, toutes ces activités se retrouvent sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Au bilan, ce n'est pas moins de 84 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an rejetées dans l'atmosphère concernant cette industrie. Ce bilan est peu florissant, et je ne parle même pas des 4500 milliards de mégots qui finissent directement dans la nature chaque année, sachant qu'un seul mégot pollue à lui seul 100 litres d'eau. Bien sûr, il y a une responsabilité citoyenne de ce côté-là. Voilà pour la partie concernant l'empreinte environnementale du tabac. Bien sûr, dans ce podcast, nous nous sommes concentrés sur le tabac, mais les autres moyens de fumer ne sont pas épargnés par la remarque environnementale, comme les cigarettes électroniques et les puffs, qui pourraient faire l'objet d'autres podcasts. Il est évident que le désastre écologique de cette industrie n'est qu'une partie des problématiques du secteur. Il est aussi très important de rappeler tout de même que le tabac cause 75 000 décès liés directement à la consommation de cigarettes rien qu'en France. Il est aussi incorrect de croire, comme l'on peut souvent l'entendre, que l'État fait des recettes sur le tabac. En effet, la cigarette coûte aux finances publiques chaque année 1,7 milliard d'euros. Tu vas te dire que le paquet est très fortement taxé. Et c'est vrai. Les recettes de cette taxation sont de 13 milliards d'euros par an. Mais les malades du tabac cessent de travailler et sont soignés par l'État. Tous ces dommages coûtent aux finances publiques la somme de 14,7 milliards d'euros. Donc non, le tabac ni l'alcool d'ailleurs ne rapportent de l'argent à l'État. Il faudrait un paquet de cigarettes encore plus cher qu'aujourd'hui pour que ce soit le cas, ou bien refuser de soigner les patients. Il faudrait un paquet de cigarettes encore plus cher qu'aujourd'hui pour que ce soit le cas, ou bien refuser de soigner les cancers, ce que personne ne souhaite. Et bien évidemment, personne ne viendra demander aux acteurs tels que Philip Morris International de payer les cancers de ses consommateurs. C'est bel et bien le citoyen qui, via ses impôts, paye pour cette industrie. Philip Morris International paye en France dans les 300 000 euros par an pour des activités de lobbying. Surveillons donc nos élus et faisons en sorte qu'ils votent pour l'intérêt général. Il est important de rappeler que Philip Morris International, le leader mondial du marché, à qui l'on doit les Marlboro ou encore les Chesterfield, a engendré un bénéfice net de 9,7 milliards de dollars en 2021. Donc, si l'on doit trouver un bénéfice quelque part, il ne fait aucun doute que c'est du côté des industriels qu'il faut chercher. Je ne peux que te recommander l'épisode de Cash Investigation sur le sujet, qui détaille très bien ce que je viens de t'expliquer concernant la partie politique et santé publique. L'épisode est disponible gratuitement sur YouTube. Le lien sera sur notre Instagram. Un grand merci d'avoir été au bout de ce podcast. Tu peux retrouver nos sources sur notre Instagram, les gars du labo, et toutes les nouvelles de nos actions de vulgarisation. Ce serait avec plaisir de lire tes retours, tes avis, ou de répondre à tes questionnements sur cet épisode.
Donc là, on vient d'écouter une chronique qui parle désastre écologique, mais parle aussi un peu politique. Nous, on va vraiment s'occuper que de la partie écologique. Les conséquences, elles sont pas seulement de santé publique. Donc, et vous, en tant que professionnel de santé, que pensez-vous de ce que l'on vient d'entendre ?
Je pense qu'il n'y a peut-être pas suffisamment d'informations à ce sujet pour le public. Pas d'infos sur les paquets de cigarettes. On s'occupe de l'aspect santé, mais pas de l'aspect environnemental. Et il y a une méconnaissance du public par rapport à l'impact des cigarettes. Une cigarette, elle met entre 2 et 12 ans pour se dégrader dans la nature. C'est quand même énorme, notamment par rapport à toutes les particules plastiques. Mais il y a aussi énormément de produits toxiques et cancérigènes à l'intérieur. Et en fait, beaucoup de fumeurs ne pensent pas ou ne pensent plus trop à ces produits qui sont dedans et aux effets. Donc, du coup, au fait de jeter sa cigarette dans la nature. Alors, il y a quand même moins qu'avant, une prise de conscience malgré tout, mais elle reste encore timide.
Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut aider les gens à prendre conscience de l'importance de jeter ses mégots, ou même d'arrêter de fumer, hein.
Ouais, plus d'informations axées sur ce thème, et puis je pense qu'on manque un petit peu de cendriers, de récupération. C'est que nous, au MAI, on a installé des cendriers de récupération, donc l'idée était que les mégots soient collectés et retraités, au moins, alors, on ne peut pas tout retraiter, mais les mégots soient récupérés, les particules plastiques sont retraités pour servir à autre chose, etc. Être dans une démarche comme celle-là. Et bon, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'établissements qui soient dans cette démarche, notamment des collectivités, de proposer des cendriers tournés vers les mégots spécifiquement et avec un traitement des déchets et un discours qui l'accompagne.
Autre que les mégots, dans ce qu'on vient d'entendre, il y avait également les puffs qui étaient évoqués et la cigarette électronique. Et depuis quelques années maintenant, la cigarette électronique, elle a même vu son succès grandir. Beaucoup pensent que vapoter est moins toxique pour le corps que la cigarette classique. Quel constat vous faites de ce changement d'habitude chez les consommateurs et les consommatrices ?
Alors, la cigarette électronique est effectivement 95% moins dangereuse qu'une cigarette. Donc il y a un bénéfice à vapoter plutôt qu'à fumer. Si ça peut permettre à un fumeur d'arrêter sa consommation de tabac, c'est bien. Après, c'est pas non plus inoffensif, c'est pas 100% pas dangereux. Et puis il y a effectivement le problème des batteries, mais comme pour toutes les batteries en fait d'autres appareils. C'est en partie aussi pourquoi les puffs sont en voie d'interdiction. Hein. L'Union européenne a donné son accord pour l'interdire en France et ça va se faire incessamment sous peu.
Oui, parce que ça fait plus de 2 ans et demi que le gouvernement essaie d'arrêter... Essayer d'interdire les puffs.
Oui, c'est toujours un petit peu long de mettre en place des mesures. Et puis maintenant, on n'est plus tout seul à décider. Il faut l'aval de l'Union européenne et ça y est. Donc ça va se faire. Par rapport principalement au risque d'accroche d'addiction à la nicotine chez les jeunes, puisque c'est un public qui va pas forcément fumer à la base, mais se mettre à vapoter pour le plaisir du goût, etc. Mais aussi par rapport à cet aspect du jetable avec des batteries qui sont des déchets, on ne sait pas quoi faire.
Les puffs, on l'a dit, c'est surtout chez les jeunes. Et vous, dans votre quotidien d'infirmière tabacologue, est-ce que vous constatez une évolution de l'âge chez vos patients ? Est-ce que vous constatez que vous avez plus de jeunes qui viennent vous voir ou au final, ça reste la même chose depuis plusieurs années ?
Il y a une baisse du tabagisme plus importante chez les jeunes que le reste de la population. En tous les cas, bon, le tabagisme, il a baissé de façon globale, mais il y a une stagnation avec la période Covid. Ça reprend tout doucement, la baisse, mais c'est encore timide. Par contre, chez les jeunes, oui, c'est plus significatif. Il y en a quand même moins qui se mettent à fumer. Mais il y a cette problématique du vapotage, malgré tout. Ce n'est pas inoffensif pour les poumons d'absorber du propylène glycol et des arômes. Et donc, démarrer la consommation que ce soit de puffs ou de cigarettes électroniques avec ces produits, on a une crainte par rapport à la santé sur un long terme. Et là, effectivement, le vapotage, il est présent chez les jeunes. Des moins jeunes aussi. J'ai des patients, quelquefois, qui ont s'orienté vers la puff parce qu'ils trouvaient ça plus pratique que la cigarette électronique en elle-même.
Il y a un attrait aussi qui est économique pour la cigarette électronique par rapport au prix du paquet de tabac.
Oui. C'est 30 à 70% moins cher que fumer des cigarettes.
Et justement, vous dites qu'augmenter le prix du tabac dans les Hauts-de-France, je précise que c'est bien dans les Hauts-de-France, est moins efficace. Pourquoi ?
Alors, moi, je dis rien de précis par rapport à ça. L'augmentation du prix du paquet, c'est une politique de santé publique qui a été adoptée sur le modèle d'autres pays, notamment européens, qui ont fait beaucoup d'actions de prévention et augmentation du prix du paquet et qui ont vu une baisse significative de leur taux de tabagisme. Donc, on copie les voisins en se disant, on va faire pareil, on va augmenter le prix du paquet. Moi, je constate quand même depuis 2 ans que maintenant, les patients qui viennent me voir, leur priorité pour arrêter de fumer n'est plus forcément la santé, mais le budget. Que, effectivement, cette augmentation a un impact sur leur mode de vie et que ça devient la raison numéro un, en fait, pour arrêter de fumer. Et je l'avais évoqué, donc le tabac concerne beaucoup des publics en précarité, donc ça leur met encore plus la tête sous l'eau. Et donc, en fait, l'augmentation du prix du paquet, c'est délicat parce que c'est en même temps une démarche un peu nécessaire pour avancer sur le sujet, pour inciter les fumeurs à arrêter. Mais c'est vrai que ça met plus en difficulté des publics qui en ont déjà financièrement et qui, du coup, vont se tourner vers du tabac à rouler en Belgique parce que ça revient moins cher, alors que finalement, le tabac à rouler, il est plus toxique que les cigarettes industrielles. Et on a un effet pervers, malgré tout, de la hausse. Donc, c'est un peu entre les deux. Oui, ça incite quand même à arrêter de fumer. Moi, je le sens, voilà, ces dernières années... J'ai beaucoup plus de gens qu'avant qui arrêtent de fumer pour des raisons de budget.
Mais autre que les raisons de budget, quelles sont les autres motivations, par exemple, des personnes qui viennent vous voir ?
Bon, c'est principalement des soucis de santé parce que des fumeurs commencent à être essoufflés et à en ressentir que le corps, il ne tolère plus trop l'agression de la fumée. Ça reste toujours la santé en numéro un, budget. Après, souvent, l'entourage familial quand même. Les enfants qui disent « Maman, j'ai peur pour toi, je veux que tu arrêtes de fumer ». Ou le conjoint qui supporte pas, des choses comme ça. C'est les principales raisons, en fait. Ouais.
Et est-ce que vous constatez que les personnes, elles sont plus disposées à arrêter de fumer maintenant qu'avant. Maintenant qu'avant, pardon.
Je pense que autrefois on n'avait pas autant conscience des dégâts que ça peut faire. Maintenant, on en parle beaucoup plus. Il y a ce côté, je l'avais évoqué, dénormalisation du produit. C'est plus aussi cool qu'avant. C'est dangereux, etc. Mais ça reste très compliqué d'arrêter de fumer. La nicotine, c'est l'un des produits les plus addictifs. Plus difficile d'arrêter de fumer des cigarettes que d'arrêter l'héroïne, la cocaïne, d'autres choses, en fait. Et donc, arrêter de fumer, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sentent prisonniers un peu de ça, mais en même temps, ils vont avoir du mal à aller de l'avant, séparer du produit, parce qu'il y a un côté angoissant à ne plus avoir ce qui représente souvent une forme de soutien. Ça a une fonction, la cigarette. Ce n'est pas uniquement une addiction à la nicotine, c'est aussi une addiction psychologique, comportementale. C'est des rituels, des symboles, des fonctions particulières propres à chacun. Et ça, ce n'est pas évident de s'en séparer.
Comment est-ce qu'on peut demander de l'aide au mail pour être suivi? Qui est-ce qu'on doit contacter?
Alors, on contacte le 03 60 12 26 27 ou par le site internet du MAI. Il y a une prise de rendez-vous à faire pour être accompagné par l'équipe. C'est donc un accompagnement pluridisciplinaire, donc infirmière tabacologue, médecin, travailleur social, psychologue. On aborde toutes les questions concernant l'addiction comme n'importe quel produit.
Et on vous retrouve bientôt à l'antenne de Radio Campus Amiens, puisque vous allez faire un podcast autour des addictions avec le premier qui est le 23 novembre autour du tabac, et voilà, qui est diffusé. Donc ce 23 novembre, quel est le but de ce projet ?
Alors nous souhaitons que les usagers de produits addictifs, psychoactifs, se sentent mieux compris dans leur démarche d'arrêt, et rien de tel que d'avoir le discours de pairs qui sont dans le même parcours ou qui sont passés par là et qui s'en sont sortis. C'est beaucoup plus encourageant pour eux que l'accompagnement se fasse aussi avec le discours de personnes qui ont traversé cela. C'est rassurant.
Eh bien, merci beaucoup Élise Houdin. Je le rappelle, vous êtes infirmière tabacologue au MAI, et on a parlé du mois sans tabac qui a commencé vendredi dernier. Et voilà, et on se dit donc au 23 novembre pour découvrir le podcast sur le tabac. C'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. Nous, on se retrouve demain sur les ondes. En attendant, je vous laisse découvrir The Cigarette Duet de l'artiste néo-zélandaise Princess Chelsea, un choix de musique qui colle au sujet d'aujourd'hui. Bonne écoute et à bientôt sur le 87.7 FM.